Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Le 3 novembre dernier, le traité de Lisbonne pour réformer les institutions européennes était enfin ratifié par le président tchèque Václav Klaus. La presse étrangère aura surtout retenu les fortes réticences de la présidence, favorisant une image eurosceptique du pays. C'est oublier que c'est en Bohême que naquit dans les années 1460 ce qui fut peut-être le premier projet politique d'union en Europe. En 1469, le roi tchèque Georges de Poděbrad et son conseiller Antoine Marini rédigent un projet d'union des puissances chrétiennes d'Occident. Anticipant à bien des égards l'actuelle ONU, le traité instaure un principe absolument nouveau à l'époque, celui d'égalité entre les États et de droit international. Poděbrad souhaite stabiliser le royaume de Bohême après des décennies de guerre civile, mais aussi réamarrer le pays à l'Occident chrétien. Prétexte plus que projet, la croisade anti-turque doit rassembler sous une bannière commune les puissances chrétiennes. Pour cela, Poděbrad prévoit, entre autres, de créer en Europe tout un réseau de gîtes destinés aux soldats. Martin Nejedlý enseigne l'histoire médiévale à l'université Charles à Prague et a effectué de précieuses recherches sur le projet d'union du roi tchèque.
Le but premier de ces réseaux d'hébergement, c'était d'aider les armées en déplacement, mais il est clair que c'était des réseaux qui devaient faciliter aussi d'autres sortes d'échanges, notamment commerciaux. Donc, il devait y avoir les auberges prévues dans différents pays pour les ressortissants d'autres États de cette union. C'était à long terme. Disons, le but militaire était le plus avancé, mais si on arrive à harmoniser les prix des aliments, ou si on arrive à introduire la monnaie unique, ça servirait aussi en temps de paix pour sceller l'amitié entre ces États membres.
Le traité prévoit, on l'a entendu, une intégration européenne plus forte par certains aspects que dans l'actuelle Union européenne, avec l'harmonisation des prix alimentaires, par exemple. L'article 22 du traité, quant à lui, instaure un véritable droit d'intervention. Ainsi, les États membres s'engagent à empêcher l'instauration d'un gouvernement qui irait contre les règles de la charte. D'ailleurs, le traité accorde un rôle important au procureur fiscal, véritable gardien de la légalité et garde-fou qui rappellerait presque l'esprit du Conseil constitutionnel de la Ve République en France. Si le traité est d'abord une ébauche, il trace quand même les contours institutionnels de l'Union. Un Conseil des souverains, une Assemblée générale, une Cour de justice, l'un des aspects les plus notables réside dans le rôle dévolu à l'Assemblée.
Le Conseil de souverains, c'était vraiment plutôt pour représenter de temps en temps l'Union, et on ne s'attendait pas à ce que les rois et les princes y siègent régulièrement. Alors que l'Assemblée, ce qui est intéressant, devait rassembler les représentants les plus éminents de différents pays et élus par les personnalités éminentes de ces pays. Alors, il n'est pas précisé qui sont ces personnalités, mais il y aurait probablement un corps d'électeurs, y compris la noblesse et éventuellement les universitaires, qui choisiraient ces représentants.
Système d'assemblée, une assemblée rassemblant l'oligarchie européenne, séparation des pouvoirs, contrôle constitutionnel, le traité élaboré au XVe siècle par Georges de Poděbrad et son conseiller Marini est très en avance sur son temps. Mais est-il le premier projet de ce type en Europe ?
Même si, ça et là, certains éléments ont pu se trouver déjà au XIIIe siècle ou au XIVe siècle, c'était toujours les pensées un peu utopiques de tel ou tel universitaire, mais il n'y avait jamais eu cette initiative vraiment d'un chef de l'État.
Et cette initiative, on la retrouve en France environ un siècle et demi plus tard, vers 1620. Même configuration que pour Podiebrad et Marigny, un roi et son conseiller, Henri IV et Sully, et un projet d'union des puissances d'Europe. Mais Sully a-t-il été inspiré par le projet tchèque ?
Oui, je pense qu'il était au courant, mais quand même la situation politique dans laquelle il préparait son sujet était différente. Donc je dirais que il a pris connaissance de ce projet, mais il n'y a pas vraiment d'influence directe.
Mentionnons enfin l'avant-gardisme du projet sur le plan économique. On le doit au conseiller du roi et co-auteur du projet, le français Antoine Marigny, qui arrive en Bohême vers 1459. Il rédige à l'attention du roi tchèque les livres sur le monnayage, aujourd'hui perdu. Il réfléchira aussi aux moyens de développer l'économie du pays, insistant sur l'importance de l'investissement financier.
Les pays tchèques sortent à ce moment-là des guerres hussites, l'économie est ravagée. Donc Marigny, qui était aussi bien, disons, ingénieur, inventeur et économiste, insistait beaucoup dans ses conseils auprès du roi à prêter l'argent aux bourgeois tchèques pour développer le commerce, à inviter les artisans étrangers, etc.
De Podiebrad à Klaus, l'héritage n'est pas évident, mais il existe bel et bien et reste mal connu. En tout cas, l'avancée de l'Union européenne saura gré au président tchèque de ne pas avoir appliqué ce proverbe tchèque du XVe siècle « Mieux vaut négocier 2 ans que guerroyer 2 semaines ».